Genève vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse a la parole sur Radio Cité Genève.
Salut, c'est les griots, les jeunes quoi. Nous sommes de retour pour une nouvelle émission. Savez-vous que cette émission contribue à nous former ?
Grâce au travail que nous faisons sur ces émissions, nous apprenons de nouvelles compétences comme mener un entretien, traiter de documents ou encore maîtriser de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir. Alors merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, de votre fidélité.
Pour cette émission, nous avons décidé de nous intéresser au football féminin sur comment sont vues les femmes dans le monde du football. Restez avec nous, aujourd'hui nous vous parlons de ce sujet dans l'émission des griots de l'espace entreprise.
Radio Cité Genève.
Vous êtes bien sur Radio Cité Genève et vous écoutez l'émission des griots de l'espace entreprise.
Pour cette nouvelle émission, nous avons choisi de nous intéresser au foot féminin. Nous nous sommes intéressés à quelles sont les inégalités entre le football féminin et masculin, les stéréotypes sont-ils vrais, y a-t-il assez de financement féminin, y a-t-il un manque de fans.
Ce mois-ci, dans l'émission des griots, nous tenterons de répondre à ces questions.
Bonjour Monsieur Johan Briganté, vous êtes le président du Servette FC Chénois Féminin depuis début 2024. Après avoir obtenu votre master en droit à l'Université de Genève, vous avez obtenu de nombreux certificats dans le management du sport, notamment à l'Université de Édimbourg et de Lausanne. Au début de votre carrière, vous avez travaillé dans le domaine légal et financier, notamment pour la FINMA, avant de vous réorienter vers le monde du football comme team manager, board member et président tout en exerçant votre rôle d'avocat. Vos réponses à nos questions nous permettront de mieux comprendre la réalité des équipes féminines de football. Nous vous remercions vivement de nous accorder cette interview.
Très bien, merci de m'accueillir aussi.
Nous allons commencer les questions. Alors, de votre formation en droit à votre poste de président du Servette Chénois, le sport a-t-il toujours été votre objectif final ?
Alors, la réponse est oui. J'ai toujours eu en tête de travailler dans le domaine sportif. Malheureusement, c'est un domaine où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que forcément, il n'y a pas énormément de clubs à disposition pour des professionnels du monde sportif. Donc, fatalement, c'était un objectif qui était un petit peu vain au début. Et puis, de fil en aiguille, à force de travailler et puis de faire des contacts dans le monde professionnel. Mon monde professionnel avant, c'était la finance. J'ai réussi en 2017 à rentrer dans le monde du sport, mais effectivement c'était juste un rêve au début et ça s'est concrétisé il y a maintenant 7 ans. Alors au sein du Servette FC Chénois Féminin, j'ai le rôle de président, donc ça implique au quotidien principalement d'exercer la politique stratégique, de donner les grands axes, également les axes budgétaires qui sont censés conduire le club, on l'espère, vers le succès, mais aussi vers le développement des académies et des jeunes joueuses. Ça passe aussi par la validation des différentes politiques sportives. On a aujourd'hui une directrice sportive en la personne de Sandy Mendley, qui est une ancienne joueuse internationale suisse de grand talent. Elle avait déjà du talent sur le terrain. Elle a aujourd'hui tout autant de talent, si ce n'est encore plus, dans les bureaux. Donc ça passe aussi par la validation des politiques sportives qu'elle dicte de consort avec le staff et puis le reste du comité. Et puis sinon, d'une manière un peu plus globale, comme un petit peu tous les conseils d'administration, tous les comités au sein du groupe Grenat ou dans les organismes sportifs d'une manière générale, on a une activité de représentation, donc vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis du mécène et vis-à-vis des autorités principalement.
Vous avez parlé des centres de formation du Servette Chénois. Quelle est la demande pour intégrer ces centres de formation ?
Alors aujourd'hui, il y a un onglet qui est à disposition sur le site internet. Si des jeunes joueuses veulent faire partie de l'infrastructure Servette Chénois Féminin, il faut en théorie déjà être active en tant que joueuse dans le canton. On est un centre d'excellence, donc on a des pôles élites qui nous permettent aussi d'avoir une vision sur l'ensemble des talents cantonaux et de manière un petit peu plus large aussi dans toute la région. Si quelqu'un est intéressé par faire un camp, il y a toutes les informations qui sont à disposition sur le site internet. Il suffit de nous contacter à cet effet. Et puis si c'est concluant, on peut intégrer effectivement le cursus avec notre club.
Est-ce que beaucoup de jeunes filles sont intéressées par le cursus sport-études ?
Alors, aujourd'hui, ça commence à se développer. Le football féminin est plus qu'il était avant, donc il y a une meilleure visibilité aussi dans les médias. Il y a un intérêt qui est plus grand. On a un euro qui arrive en 2025, l'été prochain. Donc forcément, ça crée des vocations. Aujourd'hui, on a 29 jeunes qui sont dans notre cursus sport art études. La saison prochaine, on passera à 49, sauf erreur, c'est encore à vérifier. Donc on est quasiment au double. Donc ça démontre qu'il y a un intérêt. Nous, notre objectif, c'est de continuer à faire monter ce niveau avec notre niveau d'excellence et en pouvant proposer vraiment une double carrière aux jeunes qui sont intéressés aujourd'hui, donc une carrière sportive en parallèle à une carrière dans leurs études.
Que pensez-vous de l'évolution du football féminin en Suisse et comment imaginez-vous son avenir ?
C'est une bonne question. Aujourd'hui, je le vois de manière plutôt favorable. On a une ligue qui se professionnalise, qui n'est pas encore professionnelle. Je pense qu'elle ne sera pas professionnelle avant encore un petit moment, mais on voit que dans le reste de l'Europe, le mouvement de professionnalisation commence à être assez clair. On voit que les stades se remplissent en Espagne, en Angleterre. On a le même mouvement en France, en Italie, en Allemagne. Il y a une traction. J'ose espérer que l'Euro, l'année prochaine, encore une fois, créera des vocations, amènera des jeunes filles dans les écoles de foot, et puis qu'on commencera à avoir une inertie, qu'on aura des équipes plus professionnelle, plus compétitive aussi au niveau européen dans les prochaines années et qu'à terme, les joueuses pourront commencer à en vivre un peu plus décemment que c'est le cas aujourd'hui, en tout cas dans notre pays.
Vous avez parlé de l'Euro féminine 2025. Grâce à cet événement, quelles seront selon vous les retombées sur l'image du football féminin auprès du grand public ?
J'espère qu'il sera positif. En 2019, j'ai eu la chance d'aller voir la finale de la Coupe du Monde en France. On a vu qu'il y avait un grand engouement à l'époque pour le football féminin. J'ai le sentiment, mais sans que ce soit étayé véritablement par des chiffres, que c'est un petit peu retombé. J'ai l'impression qu'on est pas sur une occasion manquée, parce qu'il y a quand même eu une croissance qui a été démontrée et qu'on peut constater, mais j'aimerais qu'on soit capable en Suisse de faire un petit peu plus, de véritablement profiter de cette compétition comme un piédestal, un vrai socle pour construire quelque chose. J'espère que ça démontrera ce que je crois dur comme fer, c'est que le football féminin en tant que produit est quelque chose qui a un public, à même titre que le football masculin, et que les gens arrêteront peut-être d'avoir les préjugés qu'ils ont aujourd'hui par rapport au niveau ou à l'intérêt qu'on doit porter à ce sport, parce que véritablement il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment un intérêt qui doit être généré et qui peut être généré par la qualité qu'on voit sur le terrain.
En continuant à parler de l'Euro 2025, récemment, le Conseil fédéral a réduit son soutien financier pour cet événement de 15 à 4 millions. À votre avis, si c'était l'Euro masculine qui aurait eu lieu, se serait-il passé la même chose ?
C'est une très bonne question. On a eu un euro helvético-autrichien il y a quelques années, de tête, il n'y a pas eu de baisse des montants à l'époque. On peut spéculer, on peut dire que peut-être que ça n'aurait pas été le cas. Aujourd'hui, il y a un lobbying qui est fait au niveau fédéral, qui est assez fort. Tout le monde était très mécontent de cette décision. Je pense que c'est un mauvais message qui a été adressé par les autorités. J'ose espérer qu'ils vont rétro-pédaler. En plus, si on parle des véritables échelles, je pense que le sport a une valeur ajoutée qui est plus élevée que le montant de cette réduction. Est-ce qu'on aurait eu la même chose pour l'euro masculin ? Je peux spéculer et dire que je pense que non. On aurait certainement été sur des autres montants aussi, hein, on va pas se mentir. Maintenant, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir qu'on arrive à revenir en arrière sur cette décision qui était une mauvaise décision, qui, encore une fois, adresse un mauvais message. Et on a encore le temps pour corriger le tir. Donc on croise les doigts et on continue à discuter au niveau fédéral.
Avant de prendre vos fonctions, regardiez-vous des fois des matchs féminins à la télé ?
Alors, mon intérêt, il est quand même somme toute assez récent. Moi, je suis fan de la Juventus de Turin, à la base. Donc, j'ai commencé véritablement à m'intéresser au football féminin sur le tard, au moment de la création de l'équipe féminine. Donc, sauf erreur, c'était en 2017 que la Juventus crée son équipe en rachetant l'équipe, une équipe locale qui était en Serie A. C'était déjà compliqué à l'époque de voir des matchs, donc on les regardait sur internet, on regardait des résumés à l'époque. Aujourd'hui, ça commence à être un petit peu plus visible, notamment le football anglais est assez facile à regarder, il est assez disponible. Il y a encore beaucoup à faire, là je me permets un petit coup de gueule que j'essaye de modérer, mais typiquement on a joué une demi-finale de Coupe Suisse il y a quelques jours contre Lucerne, et le seul diffuseur, alors que c'est un match qui est assez capital au niveau suisse, c'était la Luzerner Zeitung, et c'était derrière un paywall, donc les gens devaient s'abonner au journal lucernois pour pouvoir accéder au match. C'est pas normal aujourd'hui, je pense en 2024, à quelques mois d'une compétition internationale, que les gens aient encore ce genre d'obstacle. Aujourd'hui, si on veut promouvoir le football féminin, il faut le faire de manière constructive. Alors peut-être qu'on n'aura pas tout le temps des prime time sur la RTS ou sur d'autres canaux nationaux, mais on peut faire l'effort probablement de diffuser ça de manière un petit peu plus large que simplement sur le site de la Ligue. Mais voilà, ça montre qu'on a des axes sur lesquels travailler. Et je divague un petit peu par rapport à la question, on est d'accord, mais je pense que là où je veux en venir, c'est que c'était pas très simple de regarder des matchs de football féminin par le passé, c'est toujours pas extrêmement simple.
À votre avis, contre quels préjugés doivent encore lutter les équipes féminines de football ?
Je pense que le préjugé le plus fréquent, c'est celui que la qualité est moindre. Alors c'est sûr qu'on n'a pas le même impact physique, les joueuses en moyenne ne courront pas aussi vite que les joueurs, sauteront moins haut, ont peut-être moins de force brute, mais du point de vue technique et tactique, les joueuses sont au niveau. Il y a eu une expérience sociale qui a été faite il y a, je crois, un an, où des extraits avaient été montrés à un public cible, et les visages et le haut des corps avaient été floutés. On avait demandé aux gens sur cette base-là quelles étaient les actions qu'ils préféraient, et on s'est retrouvé avec finalement un pied d'égalité quasiment entre le football masculin et le football féminin, ce qui montre qu'encore une fois il y a de la qualité qui est là. Alors c'est pas forcément exactement les mêmes paramètres qui doivent être évalués en un pour un, mais aujourd'hui l'idée comme quoi le football féminin serait un football pauvre par rapport au football masculin, alors c'est vrai économiquement malheureusement, mais en termes purement techniques et en termes de qualité de jeu, je crois que c'est de moins en moins vrai, donc on lutte essentiellement contre ça aujourd'hui.
Que pensez-vous de la différence de salaire entre les joueurs et joueuses en Suisse ?
Ça fait le parallèle avec ce que je viens de dire. Aujourd'hui, malheureusement, il y a moins de moyens. C'est sûr que le football féminin génère moins de revenus. Donc mécaniquement, ça veut dire qu'il y a une différence de salaire qui se présente dans les poches des joueuses et du staff. C'est malheureux, c'est quelque chose sur lequel on doit véritablement travailler. Je sais qu'aux États-Unis ou dans des championnats où le football est beaucoup plus développé, les joueuses peuvent en vivre. Aujourd'hui, je pense que ça doit être l'objectif de toutes les personnes qui sont impliquées dans ce sport. Mais d'une manière plus large, je pense que ça doit être l'objectif de toutes les personnes qui ont un intérêt pour le sport et pour l'égalité d'une manière générale de salaire entre les hommes et les femmes. Je pense que malheureusement, le football féminin, c'est juste l'écho de ce que constate aujourd'hui dans la société d'une manière générale. Alors à nous d'essayer d'augmenter les revenus, d'essayer de permettre à ce sport-là d'avoir sa propre autonomie, son propre public, ses propres générations de revenus aussi. Et puis ce pay gap, j'espère, sera effacé. On y arrive petit à petit, ça reste beaucoup trop lent à mon goût. Je suis convaincu qu'on le verra de mon vivant. Maintenant, si ça peut être dans 3 ans et pas dans 30, ce sera tout bénef pour tout le monde.
Comment le Servette Chinois travaille-t-il avec les jeunes joueuses pour les encourager à s'impliquer dans le football à un âge précoce ?
C'est une bonne question. Je pense qu'il faut aujourd'hui leur donner des perspectives, leur montrer que c'est possible aussi de vivre de ce métier, qu'on montre qu'on est capable d'exporter des joueuses, pas dire par exemple qui nous a quittés il y a quelques mois pour le Bayern de Munich. On est aussi, on doit montrer que c'est possible aujourd'hui d'avoir une véritable carrière, de pouvoir faire quelque chose dans le domaine du football, offrir aussi des perspectives futur. Je parlais de Sandy Manley avant, qui est passé des terrains au rôle de directrice sportive. Je pense à Martha Perrault aussi, qui a arrêté sa carrière et qui est aujourd'hui team manageuse du club. Notre ancienne capitaine Alissa Lagonia aujourd'hui travaille à l'UEFA. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est véritablement de montrer qu'il y a des perspectives sur le terrain, il y a des perspectives après, que ça doit être regardé de manière globale. Si on arrive à démontrer que tout le monde tire à la même corde et que le football féminin, ça ne doit pas être juste un passe-temps, je pense aussi en mettant à disposition des joueuses un staff compétent, des infrastructures de qualité, des aménagements aussi dans le contexte de sport art études, en termes de formation, en termes de libération des joueuses. On a des joueuses qui partent dans des compétitions internationales aujourd'hui. C'est important de leur permettre de faire leurs examens scolaires par la suite. Si on arrive à avoir cette enveloppe un petit peu globale, on montre le bon message, et c'est comme ça qu'on doit encourager aujourd'hui le développement de ce sport.
Quelles sont les principales sources de financement pour le Servette chinois ?
Aujourd'hui, alors on se base quand même encore essentiellement sur le sponsoring et le mécénat. Donc c'est difficile d'avoir des revenus billetterie dignes de ce nom qui permettent d'indemniser tout le monde. Les revenus streams qui viennent des compétitions qu'on gagnerait, que ce soit au niveau européen ou au niveau suisse, ne permettent pas non plus d'en vivre parce qu'il y a des salaires à payer en termes de staff technique, en termes de staff administratif et les joueuses aussi, les primes, les déplacements, les repas, il y a beaucoup de frais. Donc aujourd'hui, on compte essentiellement sur la visibilité, le marketing. Encore une fois, l'euro, j'espère, va considérablement nous aider en mettant le sport au premier plan pendant au moins 12 mois, mais j'espère de manière pérenne. Et puis voilà, on est le groupe Grenat, donc on a la chance d'avoir un mécène qui supporte le sport genevois dans son ensemble et le développement de toutes les académies, de la jeunesse d'une manière générale. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ce serait beaucoup plus compliqué si on n'avait pas des entités complètement désintéressées pour nous soutenir.
Merci Monsieur Johan Briganté d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du club Servette FC Chinois Féminin.
Merci à vous et à bientôt peut-être au stade.
Radio Cité Genève.
Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très très vite pour une nouvelle émission.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.
Genève vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.